Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à tous, 8h passées de 1 minute. Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des images qui refont la une des journaux ce matin. Celle de violence pendant le mouvement des Gilets jaunes. Souvenez-vous, il y a 8 ans de l'épisode du Burger King. 9 CRS sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris et on va en parler dans un instant. On sera aussi dans le journal en Bretagne. 2 semaines que des habitants ont les pieds dans l'eau, vous verrez dans le Morbihan. Et on va revenir sur le carton historique du PSG 5-0 qu'on a vécu hier soir sur RMC contre l'OM.
8 ans après, donc, début aujourd'hui du procès d'un des moments les plus marquants du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, ce sont 9 CRS qui seront donc jugés à partir d'aujourd'hui à Paris pour violence volontaire sur manifestants pour l'épisode donc du Burger King. On s'en souvient, Constance Bostoen du service police-justice à RMC. C'était en décembre 2018 quand des Gilets jaunes s'étaient fait frapper à l'intérieur du fast-food sur les Champs-Élysées.
Oui, à l'époque, Nathan a 27 ans. Le 1er décembre 2018, il manifeste place de l'Étoile à Paris et pour fuir l'air saturé de gaz lacrymogène, il se réfugie dans l'enceinte du Burger King. Quelques minutes plus tard, il est projeté à terre par un CRS.
Je me souviens me faire frapper. Je me dis, mais ils vont bien s'arrêter à un moment donné, quoi. C'est bon, je suis à terre. J'entendais des cris. J'ai pas voulu me relever à ce moment-là parce que déjà, j'en avais l'incapacité. Il frappait les jambes.
Nathan explique que 6 ans plus tard, il n'en veut pas aux fonctionnaires de police, mais les séquelles psychologiques sont toujours là.
Je croise une voiture de police, je me mets à trembler, quoi. C'est incroyable. Les manifestations, j'en ai refait depuis. Je m'interdis de me retrouver dans une ruelle fermée.
De leur côté, les policiers ont insisté tout au long de l'enquête sur le caractère particulièrement violent de la journée de manifestation qu'ils venaient de vivre. Plusieurs d'entre eux émettent tout de même des regrets, évoquant même un défaut de lucidité à tous les échelons. Ils risquent pour certains jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Six suspects, dont un mineur, sont en garde à vue depuis hier à Lyon dans l'enquête sur la séquestration d'une magistrate et de sa mère, c'était ce week-end, dans une nouvelle affaire certainement liée aux crypto-monnaies. Ces deux femmes ont été enlevées pendant une trentaine d'heures et retenues dans un box au nord de Valence. Ça, ce sera un des rendez-vous importants de ce début de semaine. Cet après-midi, à Bercy, il sera question de l'avenir d'Arc France, le fabricant historique de verre dans le Pas-de-Calais. On en parle régulièrement. L'entreprise est en redressement judiciaire depuis début janvier. Victor Girard pour RMC, vous avez interrogé syndicats et élus et vous nous dites qu'ils attendent beaucoup de ce rendez-vous.
Oui, c'est avec le cœur lourd que Frédéric Speck se rend à Paris cet après-midi.
L'usine, moi, elle représente ma vie et je connais plein de gens comme ça.
Employé d'Arc France et délégué syndical CGT, il a passé une grande partie de sa carrière dans la verrerie comme mécanicien.
Parce que moi, je suis né là, parce que je suis à côté, parce que je suis rentré là. Ça fait 37 ans que j'y suis.
Alors, imaginez, la disparition de son usine est impensable. Avec les autres syndicats, il se rend à Bercy pour porter un message clair au ministre.
Sauver Arc.
Car selon lui, il faut absolument préserver ce savoir-faire bicentenaire.
En France, on a besoin de production industrielle. Donc ça suffit d'aller produire ailleurs. Le verre a un avenir. Plus personne ne veut de plastique. C'est l'occasion ou jamais de dire allons-y.
2 offres de reprise sont étudiées par le tribunal de commerce de Lille. Reprise qui pourrait se solder par des suppressions de postes. Le maire d'Arc, Benoît Roussel, est prêt à l'accepter.
Si la situation pourrait être rétablie, il faudrait avoir un peu moins de salariés. Il faut le comprendre, il faut l'admettre. Et donc, il y a tout l'accompagnement de l'État si jamais il y a des salariés qui devraient quitter l'entreprise. J'ai eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça.
Le tribunal doit rendre sa décision autour du 10 mars.
On reparle des intempéries ce matin parce que ça n'en finit pas en Bretagne. Le Morbihan est encore en vigilance orange ce matin pour les crues avec encore de la pluie annoncée sur ce département. Sur des sols qui sont déjà gorgés d'eau, ça commence à faire long, nous dit Amélie Courtet, dans le secteur de Malétroit, commune particulièrement touchée. On se met à leur place, ça fait 2 semaines qu'ils ont les pieds dans l'eau.
C'est un yo-yo incessant.
Ben, on n'arrête pas. L'eau s'en va, on nettoie. Elle revient, elle s'en va, on nettoie.
Guy vit au bord de l'Oust. La rivière a de nouveau débordé hier. 15 cm d'eau chez lui.
Puis voilà, donc ça va être la 4e fois qu'on nettoie. Et j'espère que ce sera la dernière pour cette année.
Car depuis 15 jours, les meubles n'ont pas bougé de l'étage. D'autres sont surélevés à l'aide de parpaings. Il aimerait retrouver un quotidien normal.
Ça commence à être long. Le ciel gris et la pluie continuent. Ça joue sur le moral des troupes, comme on dit.
Même si la réputation de la Bretagne n'est plus à faire en termes de pluie. Mais on a hâte de voir le soleil poindre.
Lui vit ça avec philosophie, mais dans les rues de Malétroit, certains ont besoin d'être rassurés.
C'est que ça dure dans le temps, quoi. Et quand on regarde les prévisions à venir, c'est pas forcément non plus très positif.
C'est un peu inquiétant.
On sait pas trop ce que vont donner les jours à venir.
Alors le maire, Bruno Gicchello, a mis en place une cellule de crise.
On assiste les gens, on les appelle, les élus sont sur le pont. Donc on fait ce qu'on peut pour eux. Nous contrôlons la situation pour le moment.
Il reste très attentif à l'intensité des prochaines précipitations car le sol est déjà gorgé d'eau, ce qui ralentit la décrue.
Alors, ça va pas faire plaisir aux supporters de l'OM, mais hier soir, c'est Marseille qui a pris l'eau au Parc des Princes. Lourdement battu, 5-0 par Paris dans le choc du foot français. C'est vous qui commentiez, Jean-Louis Tour pour RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin, Jean-Louis. On va voir si ce match aura des conséquences à Marseille, hein, qui s'enfonce un peu plus dans la crise. En tout cas, pour ce qui est de Paris, on a l'impression d'assister au réveil du PSG.
Oui, Ousmane Dembélé disait hier qu'il voulait que les supporters se réveillent ce matin avec la banane. C'est sûrement le cas en ce moment même, car en plus du résultat, le PSG a clairement ajouté la manière, la plus grosse victoire de l'histoire face au rival marseillais, avec pour l'obtenir les ingrédients qui lui ont permis de gagner la Ligue des Champions la saison dernière. On voulait envoyer un message clair, a ajouté Dembélé. On est de retour. Le Ballon d'Or, symbole de ce retour au plus haut niveau, avec un doublé et une débauche d'énergie de tous les instants. D'autres joueurs ont retrouvé leur niveau de la saison passée. Laissons penser que c'est bien une nouvelle saison qui débute pour le PSG. La première d'août à février a été rythmée par les blessures et les méformes. La seconde de février à mai, c'est celle des matchs qui comptent vraiment, avec en point de mire la quête d'une deuxième Ligue des Champions.
Jean-Louis Tour en direct ce matin pour RMC. Il y avait vraiment les deux visions de l'Amérique, hein, cette nuit, lors du Super Bowl aux États-Unis, un des événements les plus suivis là-bas. C'est le chanteur portoricain Bad Bunny qui assurait le traditionnel show de la mi-temps en plein débat sur la police de l'immigration là-bas. Il a terminé en énumérant, tiens, écoutez-le, tous les pays d'Amérique latine, avec une procession de drapeaux latino-américains. Vous l'entendez, Bad Bunny, ça a fait réagir Donald Trump, qui a dénoncé durant la nuit un affront à la grandeur de l'Amérique. Donald Trump a dit qu'on ne comprenait pas un mot des paroles en espagnol. Pour ce qui est des Jeux Olympiques, la France en est à 2 médailles ce matin au JO de Milan-Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et alors, on a vibré hier sur RMC avec la médaille d'or dans le relais mix du biathlon, la médaille d'argent pour Mathis Desloges en ski de fond sur le skiathlon. Parmi les rendez-vous du jour, il y aura encore du ski alpin aujourd'hui. Léna Marjac, c'est vous qui suivez ça sur le site de Bormio pour RMC, avec l'épreuve du combiné par équipe chez les messieurs, une descente et un slalom. Par équipe, donc.
Dans une équipe, vous associez un descendeur avec un slalomeur. Chacun fait une manche de sa discipline. On cumule les deux temps et les plus rapides s'imposent. La France a décidé d'aligner trois équipes. Nils Allègre, 8e de la descente olympique samedi, sera avec Clément Noël, le champion olympique en titre de slalom.
J'adore ce format. Ça donne un peu de peps au ski. C'est que je vais tout donner pour l'équipe.
Je la prends avec vraiment beaucoup de sérieux, cette course, parce que j'ai envie d'aller chercher une médaille sur ce type de format-là. On a des équipes qui peuvent jouer, mais il va falloir qu'on s'envoie très fort.
Paco Rassa compte bien s'envoyer fort, lui aussi. Il fera équipe avec Maxence Musaton.
Ça permet de donner un peu d'esprit collectif dans ce sport individuel, de s'associer avec un descendeur. Je trouve que c'est beau et j'ai hâte de prendre part à cet événement. Ouais.
L'an passé, au championnat du monde, ils ont tous pu découvrir ce combiné par équipe et c'est un grand oui pour Steven Amier, coéquipier de Nils Alphand.
On vit vraiment la course à fond et crée des émotions que sans vraiment qu'on fait partie d'une équipe. Et c'est vrai que c'est des émotions que j'avais jamais ressenties avant.
Avec ce combiné, les Bleus espèrent bien ouvrir le compteur de médailles du ski alpin aux Jeux Olympiques.
Et l'autre temps fort, ce sera dans la soirée à Milan, le début du concours de danse sur glace en patinage artistique avec Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire Laurence Fournier-Baudry. Ce sera vers 20h20 à peu près leur passage.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC. C'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et on va parler automobile, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, le cours de bourse de Stellantis s'est effondré de plus de 25% vendredi, c'est du jamais vu.
Oui, c'est ce qu'on appelle remettre les compteurs à zéro. À l'origine de ce plongeon boursier, la décision de Stellantis de passer dans ses résultats 22 milliards d'euros de charges exceptionnelles. Ça, c'est au titre de 2025. Alors, comptabiliser des charges exceptionnelles, en fait, ça revient à reconnaître officiellement des pertes qui existaient déjà et qu'on entérine et qu'on n'avait pas encore écrit jusqu'à maintenant noir sur blanc. Et là, ce sont des pertes considérables. Il n'y a qu'une dizaine de grandes entreprises qui ont reconnu de tels échecs dans le monde depuis 10 ans, dont beaucoup d'ailleurs dans la construction automobile.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait de telles pertes chez Stellantis?
Alors, les trois quarts de ces provisions sont liées à des hypothèses beaucoup trop optimistes sur le rythme d'adoption de la voiture électrique en Europe, mais surtout aux États-Unis, où le marché de l'électrique stagne, freiné par une réglementation devenue moins favorable sous Donald Trump. Et donc, la priorité pour Stellantis, c'est de concentrer ses efforts sur les nouvelles technologies, mais les technologies thermiques et les technologies aussi hybrides. Hein. Stellantis avait supprimé certains moteurs thermiques comme le fameux V8 HEMI aux États-Unis. Il sera réintroduit. Et puis en Europe, c'est pareil, hein, la Fiat 500, c'était un véhicule qui était 100% électrique. Or, ils se sont rendus compte que y a beaucoup de gens qui attendaient quand même encore une Fiat 500 thermique ou hybride. Et donc, voilà, va y avoir du
ça
changement de stratégie.
Ça ne répondait pas aux vraies envies des clients. Stellantis, c'est pas la seule à faire machine arrière. Hein.
Non, alors c'est vrai, General Motors et Ford viennent également d'inscrire des charges exceptionnelles massives pour réduire la voilure dans les véhicules électriques, mais il n'empêche que les difficultés sur le marché électrique ne sont pas le seul problème de Stellantis. Il y a eu les revers techniques liés aux moteurs PureTech et aux airbags Takata, et puis les effets de la politique de prix élevée menée à l'époque de Carlos Tavares, hein, qui ont fait perdre beaucoup de parts de marché à Stellantis. La stratégie de la nouvelle direction aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est une stratégie qui consiste à faire baisser les prix et à compenser évidemment cette baisse de prix et donc de marge par une augmentation des volumes. Ça va être difficile de remonter la pente. Et donc, inutile de vous dire que c'est l'inquiétude hein, aujourd'hui sur la douzaine de sites industriels du groupe en France, sans compter les sous-traitants.
Merci Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint à 8h30. Notez le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. On reviendra sur l'explosion de l'hyperviolence. Voilà l'expression de son collègue, le ministre de l'Éducation, qui parle d'une explosion de l'ultraviolence chez les très jeunes, chez les mineurs. Réaction du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après ça, il y aura Nicolas Canteloup, comme chaque matin. C'est à 8h50 sur RMC. Il est 8h12 pour l'heure. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et on repart pour une semaine.
Et c'est tous les jours qu'il est avec nous, salut.
Bonjour les amis, bonjour Apolline. Comme vous êtes satinée ce matin. On a des chances de médailles en satinage artistique. Aux Jeux Olympiques. C'est RMC, c'est la radio du sport et des JO. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie d'ouverture?
Du petit morceau.
C'était nul. C'était mignon, hein, mais rien à voir avec notre glorieuse cérémonie parisienne à nous qu'on avait. Là, c'était kermesse de fin d'année avec les décors en carton, les costumes faits main. Non mais vous avez vu, à un moment il y avait des tubes de peinture géants qui ont déversé du tissu, des grosses têtes de Vivaldi en papier mâché et un défilé avec des acteurs déguisés en cafetière. Non mais nous on avait dégainé la garde républicaine, la tour Eiffel, le heavy metal et les plans à trois. Eux ils ont fait défiler des cafetières quoi. On aurait dit les Miss France, vous savez, avec les meufs déguisées en quiche Lorraine ou avec un chapeau en chapeau de garni. C'était ce défilé là. Alors il y avait Andrea Bocelli quand même, c'était tellement moche qu'ils ont dû prendre un chanteur aveugle. Vous voyez, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Il aurait retrouvé la vue par miracle, il se serait dit « Mais c'est affreux !» Il se serait recrevé les yeux, le pauvre. Même sur CNews, ils ont trouvé que ça manquait un peu de blasphème. C'est vous dire. À propos de CNews, Sonia Mabrouk quitte la chaîne courageusement, il faut le dire. Hein, après tant d'années à travailler aux côtés de Jean-Marc Morandini et alors que toutes les pièces du dossier étaient connues depuis 2016, Sonia Mabrouk a enfin trouvé le courage d'estimer, après 10 ans de réflexion intense, que tout ça... c'était pas très bien. Enfin, c'est toujours mieux que ceux qui restent sur CNews. C'est déjà ça. Sonia Mabrouk avait déclaré être très mal à l'aise du soutien de Jean-Marc, du maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne. Et le lendemain, Pascal Praud avait dit « J'ai vu les propos de Sonia Mabrouk. J'aurais pu dire la même chose. » Eh oui, j'aurais pu. Des fois, je sens que ça me démange. J'étais dans le bureau de Serge Nedjar, notre patron, l'autre jour. J'étais vraiment à ça, hein. Je me suis dit, retenez-moi ou... Et il m'a retenu, heureusement. Allez, assez parlé de mes états d'âme. Quel est le programme, Jean-Marc Morandini? Eh ben, on va parler de Jack Lang. Ah oui, quelle histoire, ça aussi. Ce sentiment d'impunité chez les gauchistes, c'est quand même fou.
Ce week-end, Jordan Bardella était en déplacement au Cap d'Agde.
Oui, au Cap d'Agde, il y était pour les municipales. Il a pu rencontrer le maire de la ville, Patrick Sébastien.
Non.
Il m'a dit, salut. Bienvenue au Cap d'Agde, je te sers la bite. Je vous trouve bien inélégant, monsieur Sébastien. Jordan Bardella, qui a été ému par sa visite du camp naturiste. Il faut augmenter le pouvoir d'achat. Les gens sont dans le dénuement. Tous ces retraités n'ayant pas les moyens d'acheter des vêtements. Je trouve ça bien inélégant, madame de Malherbe. Il a dû faire plein de selfies au Cap d'Agde, avec des messieurs qui disaient « Je vous adore, Jordan !» Je vois. Et si on allait mettre un pantalon?
Oh allez, fais pas ta mijaurée, c'est décontracté ici. On a fait une orgie avec tous les retraités jusqu'à 4h du matin.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Où est-ce qu'il trouve?
Jack Lang a donc proposé sa démission à la présidence de l'Institut du Monde Arabe, au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ce dernier a pris acte de l'offre de démission.
Oui, ça pouvait pas rester comme ça. Il fallait que le pouvoir tape. Je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a besoin de faire un exemple avec Jack Lang. Il peut en plus. Je veux dire, Macron, il est insoupçonnable de faire partie des dossiers Epstein. On peut pas le soupçonner de coucher avec des jeunes filles mineures. Emmanuel Macron, c'est un truc qu'on peut pas. Donc Jack Lang a donné sa démission.
Non, pas les petites.
Mais non, mais Jack Lang a donc donné sa démission au Quai d'Orsay.
Oui.
Bonjour jeune homme. J'ai rendez-vous avec mon ami Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères.
Non, c'est moi le ministre.
Roland, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Tu les as tous perdus. Regarde, moi j'ai de la chance. Pas un cheveu blanc, à mon âge.
Oui, Jack Lang, j'aimerais vous parler de Jeffrey Epstein.
Un homme merveilleux. Vous l'avez rencontré chez Woody Allen, et vous avez raison, il faut rendre hommage à Jeffrey. Organisons chaque année la fête de la lubrique.
Non. Je suis désolé de vous dire que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire contre vous et votre fille Caroline Lang, d'ailleurs, hein, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
Mais tout ceci est ridicule. Cette Caroline Lang est une vague connaissance. Je l'ai connue chez Woody Allen en 1978. Woody m'a félicité pour la beauté de ma femme. Je lui ai répondu que c'était ma fille. Après, je lui ai présenté ma femme. Woody m'a dit, je croyais que c'était ta mère. Et nous étions tous ensemble.
Ce dialogue est exceptionnel.
Nous étions tous ensemble à parler cinéma dans le jacuzzi de sa propriété avec Roman Polanski, qui nous a présenté sa fille, qui se trouvait être la mère de la fille de Woody Allen. Oh non. Et puis Claude François nous a dit, attendez les gars, on n'y voit rien, je vais régler la lumière. Non. Il s'est mis debout dans le jacuzzi, ça a fait... Et depuis, j'ai cette coiffure.
C'est l'explication,
ça vient de là.
Oh là là là, bref, ça vient de là.
Il a démissionné. Où est-ce qu'on va pouvoir recycler Jack Lang maintenant? Eh ben, dans la poubelle jaune. C'est là, le plastique. Allez, à demain. Au bisous.
Arnaud Demange, comme tous les jours, pour notre plus grand bonheur. Il est 8h21.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Vous l'entendez? C'est la roue RMC, parce que ce vendredi, nous serons le vendredi 13. La roue RMC est donc de retour. Jusqu'à 30 000 euros à gagner grâce à la roue RMC. 30 000 euros cash, net d'impôts. Alors pour jouer, vous envoyez 13 en lettres, 13 en chiffres, comme vous voulez. Vous envoyez 13 au 7-32-16. Au 7-32-16, et vous avez 10 minutes pour jouer. Il est 8h21, vous avez donc 10 minutes pour envoyer 13 au 7-32-16. Bonne chance à tous. Et au 32-16, il y a Marie qui nous appelle. Ça fait beaucoup de chiffres, hein. Vous ai peut-être perdu là dans la
13
roue.
13
au 7-32-16. Et Marie qui nous appelle au 32-16, le standard d'RMC. Bonjour Marie.
Bonjour. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Marie, vous êtes menuisière dans la Manche.
Oui.
Soyez la bienvenue ce matin. Vous vouliez réagir à cette transparence des salaires dans les entreprises. Je vous écoute.
Oui. Alors, j'ai peur de me faire taper sur les doigts par les autres dames qui travaillent dans le BTP, mais parce qu'en fait, ce matin, j'entendais en parler des différences de salaire, etc.
Ouais.
Moi, par exemple, en travaillant dans le BTP, je suis une femme, je fais 1m60, je pèse 60 kilos. Moi, mes collègues, c'est des gros bonhommes. Mmh. Donc, ils travaillent plus vite. Ils travaillent, ils sont moins fatigués que moi à la fin de la journée, donc ils sont plus productifs. Et par exemple, admettons, j'ai le même diplôme, j'ai la même expérience, la même exigence de travail, je travaillerai toujours moins.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire, Marie, que vous comprenez d'être moins payée qu'eux? Vous comprendriez d'être moins payée qu'eux?
Oui.
Mais vous n'auriez pas d'autres trucs à valoriser,
pas
Marie?
Pas une différence non plus, pas une
Marie, je vais vous aider.
Tout, hein.
Marie, je vais vous aider dans la négo, là, ça va pas du tout. Marie, là, faut que je vienne vous voir pour vous coacher.
Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si eux, ils font gagner plus d'argent, c'est normal qu'ils en aient plus à la fin.
Oui, alors, je comprends très bien, c'est-à-dire de votre point de vue, qui est un point de vue aussi, justement, libéral, de se dire, bon, ben, au mérite et au nombre de, je sais pas, de charpentes ou de choses montées, vous vous dites à la fin, et s'ils en font plus, ils feront mieux gagner leur vie. Mais Marie, vous avez peut-être, justement, je sais pas, une précision, d'autres choses, une expertise à faire valoir. Marie, il faut que je vous aide, là.
Oui, je suis d'accord. Après, moi, je pense que je suis équivalente aux autres. Mais qu'admettons, ils voient, eux, comme ils mettent, par exemple, la portée des choses, etc. Ils vont se dire, ah, mais attends, elle est mieux payée ou elle est payée pareil que nous, mais elle en fout moins.
Non, mais j'entends très bien. Je trouve extrêmement intéressant votre point de vue parce qu'il est très très rare d'entendre quelqu'un qui dit, écoutez, il bosse plus techniquement que moi. Je ne peux pas porter ce matériel. Je ne peux pas faire ceci. En tout cas, vous faites un bien beau métier, Marie, et je suis très heureuse de vous avoir accueillie ce matin. C'est intéressant aussi cette liberté de penser différemment. Marie, à très bientôt sur RMC. Il est 8h24. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Ça se passe sur RMC, BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à mon invitation ce matin. De très nombreuses questions à vous poser, notamment aussi après les déclarations du Premier ministre sur l'aide médicale d'État, sur l'accueil des étrangers, la question aussi des liens avec l'Algérie. Mais je voudrais commencer par ce que votre collègue ministre de l'Éducation appelle l'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes. Il parle même d'une banalisation de la violence, et il donne ce chiffre: 525 élèves entre mars et décembre ont été interceptés avec un couteau, il l'a dit chez nos confrères d'RTL. Est-ce que vous utiliseriez la même expression d'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes?
Oui, j'utiliserais exactement la même expression. Par contre, il faut clarifier les choses. La part des mineurs dans la délinquance depuis 2016 ne cesse de baisser. C'est-à-dire, si on prend le total des mis en cause, quels que soient les items de la délinquance, le pourcentage de mineurs baisse. Ce qui interpelle, c'est que d'abord, malgré cette baisse, il reste très présent dans les violences physiques hors contexte familial. On a encore une personne mise en cause sur cinq est un mineur. Sur les cambriolages, ça peut aller, c'est également 1 sur 5. Et surtout, sur les vols violents, c'est encore 1 sur 3. Donc c'est beaucoup, même si ça baisse.
Ça veut dire qu'ils sont moins nombreux à être violents, mais quand ils sont violents, ils sont plus violent qu'avant.
Voilà. La délinquance des mineurs, statistiquement, on ne constate pas une augmentation. Au contraire, le pourcentage dans les mis en cause baisse. En revanche, et c'est là évidemment, je rejoins totalement mon collègue Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale. Ce qu'on constate, c'est que la violence s'invite dans les relations pour des motifs extrêmement futiles. On a de plus en plus d'usage d'armes blanches. Et oui, on peut parler d'une montée de la violence chez les jeunes. C'est un véritable fait de société. Mais ça voilà, en termes de délinquance statistique.
Alors, une fois qu'on a posé les chiffres,
il y a les chiffres, et vous l'avez dit,
donc il y a moins de mineurs mis en cause, mais ceux qui sont mis en cause sont extrêmement violents. Moi, j'ai aussi ce chiffre sous les yeux. Le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel, violence aggravée, a quasiment doublé depuis 2017. Donc, pour ces faits d'ultra-violence, il y a des mineurs. Et puis, effectivement, vous le disiez, la violence entre eux, entre mineurs, avec cette hyper-violence dont il parle. Est-ce que vous utiliseriez aussi le mot d'ensauvagement ?
Non, moi, j'utilise pas le mot d'ensauvagement. Voilà,
il y a une montée de la violence. Utilisez votre prédécesseur.
Il y a une montée de la violence des jeunes. Il y a une action répressive qui est menée. Vous savez, les 525 armes qui ont été saisies, armes blanches qui ont été saisies depuis mars dernier, c'est dans le cadre de contrôles qu'on organise avec les responsables des autorités de l'éducation nationale, les responsables de chaque établissement, policiers, gendarmes, aux abords des établissements scolaires, à l'entrée ou à une périphérie un peu plus éloignée. Et donc, on a densifié les contrôles. Voilà, on mène une action qui est aussi une action répressive.
1500 contrôles par mois sur tout le territoire. Vous restez sur ce chiffre-là?
Oui, on reste sur ce contrôle. Alors, ce sont des contrôles qui ont lieu soit à l'entrée des établissements scolaires, soit diligentés par les forces de sécurité intérieure à proximité immédiate. Ça a été lancé de manière soutenue depuis mars dernier, donc il y a bientôt un an, et on continue évidemment ces contrôles.
Mais maintenant, on fait quoi ?
Non, mais attendez, maintenant on fait quoi? Vous savez, moi je suis le ministre de l'Intérieur en charge et responsable des policiers et des gendarmes. Nous, on mène une action répressive. Vous savez, dans l'action que mène l'ensemble des effectifs du ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure, nous on ne connaît pas l'excuse de minorité. Donc on interpelle des délinquants. On ne connaît pas l'excuse de minorité. Mais vous voyez bien que les policiers et les gendarmes ne peuvent pas tout. Et d'ailleurs, je crois que le ministre de l'Éducation nationale l'a dit. Il y a besoin aussi dans ce pays d'un choc d'autorité à tous les niveaux. Au niveau évidemment des parents, des associations, des collectivités locales pour la prévention de la délinquance. Voilà, il faut que tout le monde prenne à bras le corps ce problème.
Vous êtes en train de me parler tout sauf de la justice. C'est-à-dire, vous me dites qu'il faut un choc d'autorité dans l'éducation, chez les parents, mais à la fin des fins, est-ce qu'ils sont jugés comme ils devraient l'être? Je vous donne deux exemples sur les derniers jours. Il y a eu donc cette jeune fille dans le Rhône qui a été prise dans un traquenard et torturée par d'autres jeunes mineurs. Il y a eu cette jeune fille à la sortie de son collège à Saint-Genis-Laval. Il y a eu Théo à Lyon. Théo, parmi ses agresseurs, il y aurait, mais vous allez me confirmer si c'est le cas, un jeune de 14 ans. 14 ans est déjà connu pour 25 faits, dont des faits de torture. Mmh. C'est juste?
Moi, je n'ai pas à me prononcer sur des décisions judiciaires. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, dans le choc d'autorité, il y a aussi la justice. Je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi la justice.
Quand on est connu pour 25 faits,
il faut qu'à tous les étages, on rappelle l'autorité. Voilà, à tous les étages, évidemment, y compris au niveau des décisions de justice qui sont prises. Mais encore une fois, je le redis, les magistrats ne font appliquer les lois telles qu'elles sont faites.
Est-ce que l'excuse de minorité, au fond, est devenue un argument pour parfois même utiliser, manipuler un certain nombre de jeunes, quand on voit par exemple à Grenoble l'enlèvement de cette femme magistrate et de sa mère sur fond de crypto-monnaie, puisque l'époux de la magistrate travaille dans les crypto-monnaies et qu'il lui a été demandé effectivement une rançon. Les ravisseurs, dont une fille d'ailleurs, ont moins de 20 ans et il y a au moins un mineur. Est-ce que le fait qu'il y ait cette excuse de minorité dans la justice fait que parfois on irait, quand on est ravisseur, chercher des mineurs pour leur faire commettre les basses œuvres? Alors, est-ce que au fond ça ne s'est pas retourné contre les mineurs eux-mêmes qui sont désormais manipulés parce qu'on sait que eux ils prendront moins que les autres?
Alors d'abord, dans ce type d'affaires qui relève de la criminalité organisée, hein, on enlève des personnes qui sont des entrepreneurs de crypto-monnaies ou qui en détiennent, on enlève leurs proches, pour faire pression sur eux, obtenir une rançon. Dans ce type d'affaires, c'est de la criminalité organisée. Je pourrais vous dire la même chose pour le trafic de stupéfiants. Oui, il y a des commanditaires qui, généralement, ne sont pas forcément sur le territoire national. Qui utilisent effectivement des délinquants, des voyous locaux, des petites mains, on va dire, des petites mains, même s'ils ont des profils très sérieux en termes de condamnation judiciaire, ils sont connus des services de police. Et oui, très jeunes en général, et vous avez raison, il peut y avoir effectivement des mineurs. Évidemment que le fait d'envoyer des mineurs, les expose moins en termes de sanctions pénales, évidemment. Et c'est évidemment pour ça que l'excuse de minorité pose question, interpelle. En tout cas, je vous le redis, pour les policiers et les gendarmes, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'excuse de minorité. La personne qui a... Vous dites qu'il y a au moins un mineur, je ne confirmerai pas cette information parce qu'elle relève de la procédure judiciaire, a supposé que ce soit le cas, vous savez, elle a été interpellée de la même façon.
Elle ne sera pas jugée de la même façon.
Vous savez, à 17 ans, quand vous enlevez, une magistrate et sa mère pour obtenir une rançon, je pense que oui, quand même. Franchement, je pense que oui.
Mais quand vous dites l'excuse de minorité interroge, est-ce que vous estimez malgré tout qu'il faut ouvrir cette question et se poser la question de l'excuse de minorité?
Bien sûr.
Ça veut dire aussi envisager de la supprimer.
Mais bien sûr qu'il faut envisager. Moi, je vous parle à titre personnel. Je vais pas parler à la place du garde des Sceaux. Quand vous voyez le nombre de mineurs qui sont impliqués dans des faits grave. Le nombre de mineurs impliqués par exemple dans les homejacking, qui sont les séquestrations à domicile pour dérober des biens, quand vous voyez les mineurs qui sont impliqués dans le narcotrafic, quand vous voyez les affrontements qu'il y a entre jeunes où on utilise des armes blanches, et qui baissent encore à Pauline de Malherbe, qui baissent cette année par rapport à l'année dernière, le volume d'affrontements entre jeunes, n'empêche que l'intensité de la violence dans ces affrontements monte, évidemment qu'il faut se poser la question, évidemment.
On y reviendra également, cette interview du Premier ministre Sébastien Lecornu à la presse quotidienne régionale. Il y a deux points qui vous concernent, la question de l'AME et la question de la renégociation éventuelle des accords d'Algérie. Sur l'AME, l'aide médicale d'État, c'est donc cette aide médicale qui est réservée aux clandestins en France. Il dit que certes, il va y avoir davantage de contrôle sur les bénéficiaires. Il a d'ailleurs publié un décret qui demande, par exemple, et on découvre que ça n'était pas le cas, donc jusqu'à présent, une pièce d'identité avec photo pour bénéficier de l'AME. Avant, on pouvait bénéficier de l'AME sans pièce d'identité avec photo. Mais il dit on ne va pas toucher au panier de soins. Est-ce que aujourd'hui le panier de soins pour les titres de séjour pour soins, qui font partie aussi des titres de séjour pour entrer en France, vous paraît OK? Est-ce que vous vous dites qu'il n'y a rien à changer, comme lui?
D'abord, le Premier ministre, il ne dit pas qu'il n'y a rien à changer.
Il dit on ne changera pas le panier de soins.
Il ne dit pas qu'il n'y a rien à changer. Il dit qu'il y a eu un rapport, qui était le rapport Evin Stefanini, sur l'aide médicale d'État, qui bénéficie, je le redis pour vos téléspectateurs, auditeurs, aux étrangers en situation irrégulière, qui est une aide médicale sanitaire d'urgence. Il s'agit d'éviter qu'on ait des épidémies quand même. Donc elle a un motif.
En fait, c'est pas d'urgence. Rappelle... Enfin, vous dites d'urgence,
non, c'est
mais
pas d'urgence.
Justement,
c'est l'aide
attention,
d'État.
C'est tout le problème. Oui. Pardon, mais précisément, non, certains voudraient que ça ne soit réservé qu'aux actes d'urgence.
Oui, certains voudraient cela,
c'est
mais ça n'est pas le cas. c'est l'aide médicale d'État qui vise à éviter qu'on ait des épidémies, des maladies qui se propagent. Et donc, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il n'est pas question de la remettre en cause. En revanche, il faut en revoir les modalités de fonctionnement. Il a publié effectivement des décrets qui reviennent.
J'ai vérifié, ils ont été publiés dans la nuit de dimanche à lundi.
Deux décrets qui mettent en place une partie des propositions du rapport Evin Stefanini, dont celle effectivement d'accompagner les pièces justificatives produites de photos, et par ailleurs celle qui permettra aux postes consulaires qui délivrent des visas partout dans le monde, de pouvoir avoir accès aux bases de données des bénéficiaires de l'AME pour éviter qu'il y ait des fraudes et des personnes qui ne viennent sur le territoire national que pour se faire soigner.
Donc ça, c'est sur l'accès à l'AME.
Et sur le panier des soins, sur le reste, le Premier ministre n'a rien exclu. Il a dit qu'il fallait y réfléchir, et évidemment, nous y réfléchirons.
Mais il dit, pour l'instant, les choses ne sont pas prêtes. Je voulais vous poser une question.
Exactement.
Il y a notamment les troubles psychiatriques qui sont aujourd'hui un motif d'obtention de titre de séjour pour soins. Quand on voit l'état de la psychiatrie en France, les manques cruels de la psychiatrie en France, est-ce que vraiment le fait de pouvoir prétendre entrer sur le territoire parce que précisément on a un trouble psychiatrique, ça ne vous pose pas question?
Alors d'abord le titre pour soins, il y a très peu de titres, hein, je n'ai plus le chiffre en tête, mais d'abord ça s'effondre.
35 000 à peu près cette année.
Ça s'effondre, hein, le chiffre ne cesse de baisser. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, la plupart des gens qui sollicitent ce titre pour soins sont déjà sur le territoire national et ont déjà un titre de séjour à un autre titre. Donc il faut relativiser tout ça. Je crois que c'est 15% de l'ensemble des demandes de personnes qui sont à l'étranger.
Je dis pas du tout quelque chose, je pose juste la question pour le principe. Est-ce que vous considérez qu'un trouble psychiatrique doit être un argument pour obtenir un titre de séjour?
Il faut que ce soit des traitements, il faut que ce soit des maladies qui soient graves et que dans le pays dont est originaire la personne, on n'ait pas un traitement approprié qui permette de soigner cette maladie.
Mais ça
maladie.
Veut dire qu'on accueille ici ou alors qu'on garde ici des gens qui ont des troubles psychiatriques
le
pour lesquels
citez,
on a peu de moyens de lutter.
Ça doit concerner un nombre limité de personnes. Vous savez, la plupart des titres pour soins sont pour des maladies graves, sont pour des cancers, voilà. Et encore une fois, 16% des personnes sont à l'étranger. Donc voilà, il faut relativiser tout ça. Et l'attribution de ce titre n'a cessé de baisser au fil des années.
Laurent Nunez, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui dit qu'il estime qu'il faudrait faire une pause dans l'immigration?
Le propos qu'a tenu Gérald Darmanin, c'est un propos qui était un propos personnel, qui s'inscrit dans une perspective plus longue. Je pense que ça vous a pas échappé, Apolline
de
Malherbe.
Oui, probablement dans une perspective même de présidentielle ou d'élection.
Je respecte tout à fait cette proposition, mais elle s'inscrit dans une perspective plus longue. Moi, je m'en tiens à l'interview qu'a donnée le Premier ministre hier.
Est-ce que vous considérez que c'est une question qui peut se poser, temps, dit-il, effectivement, de tout remettre à plat?
C'est une question qui peut se poser, mais je vais vous répondre. Je vais vous dire précisément ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, parce qu'on y travaille, c'est d'avoir une meilleure régulation des visas, d'avoir une immigration qui soit mieux contrôlée, mieux pilotée, mieux choisie, d'avoir une meilleure régulation des visas, notamment des visas long séjour qui sont demandés à l'étranger, pour pouvoir orienter vers des activités sur lesquelles nous avons des besoins, et puis surtout utiliser les visas aussi comme arme de rétorsion pour ceux des pays qui n'acceptent pas de reprendre leurs étrangers.
Lorsque dans cette interview, le Premier ministre parle d'une renégociation de l'accord de 1968, il dit « celui-ci ne correspond clairement plus à nos intérêts et il y a urgence à aboutir ». Est-ce que vous irez en Algérie comme vous aviez d'ailleurs à ce micro dit que vous iriez?
Alors il y a plusieurs choses dans votre question, il y a deux choses. La première, c'est l'accord franco-algérien. Bon, effectivement, l'accord de 1968, je crois que le président de la République a annoncé, et le président Tebboune à un moment l'avait accepté, qu'il puisse y avoir une renégociation. Cette renégociation, on va y travailler. Pourquoi? C'est un accord de droit au séjour. C'est ce qui régule le séjour des Algériens sur le territoire national. Il n'applique pas le droit commun, on n'applique pas le code du séjour. Et il y a un certain nombre de facilités qui sont accordées, notamment pour l'immigration familiale, et il y en a un peu moins pour l'immigration économique. Or, on veut rééquilibrer l'immigration économique dans notre pays, avoir un peu plus d'immigration économique, d'immigration familiale. Donc il y aura une discussion sur ce sujet. Après, il y a le deuxième sujet, qui est mon déplacement en Algérie, pour aller parler de questions de sécurité, notamment la question des réadmissions, la question de la lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic. Et j'ai été invité par mon homologue, le ministre de l'Intérieur algérien, et nous préparons cette visite.
Donc cette visite est dans les tuyaux?
Elle est dans les tuyaux, elle est en cours de préparation.
Sur le fond,
j'ai toujours une invitation en cours de mon homologue.
Mais est-ce qu'à un moment vous y répondrez? C'est ça que je veux dire.
Bien sûr, j'y répondrai. Voilà, on travaille aux conditions de cette visite. Et puis surtout, je me félicite de ce que les échanges sécuritaires ont repris entre les deux pays.
Les échanges sécuritaires ont repris. Est-ce qu'ils reprennent aussi des OQTF?
Pas pour l'instant.
Toujours pas?
Pas pour l'instant.
Toujours pas, ça bloque.
Pas pour l'instant, il y a un certain nombre de départs volontaires, mais pas pour l'instant.
Et donc il reste pour l'instant dans les...
Mais on y arrivera.
Mais en attendant, ils sont où? Enfin, ceux qui doivent partir et qui sont encore là.
Il y en a beaucoup dans les centres de rétention administrative et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une évolution de la situation.
Vous avez vu la déclaration?
On a 40% de ressortissants algériens dans les centres de rétention administrative actuels.
Est-ce que vous avez vu la déclaration de la première ministre du Danemark? Elle annonce que le Danemark va désormais expulser tous les étrangers condamnés à des peines d'un an de prison et plus. Voilà ces mots. Les étrangers délinquants condamnés à au moins un an de prison ferme pour des crimes graves tels que violence aggravée ou viol doivent être désormais expulsés. Ça rentrera en vigueur le 1er mai. Et elle invite, tout comme le Royaume-Uni, les Européens à changer leurs règles pour pouvoir désormais expulser plus facilement les étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais j'en pense que c'est déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on fait. On a déjà les possibilités d'expulsion ministérielle, préfectorale pour des troubles à l'ordre public. On a la loi de 2024 qui permet de retirer des titres, de ne pas renouveler des titres lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public. Voilà, c'est déjà ce qu'on fait.
Et ça marche.
On n'a pas renouvelé des titres au titre de troubles à l'ordre public, ce qui n'était pas possible avant la loi de 2024 pour des faits un peu moins graves, on va dire. On a procédé à plusieurs milliers de retraits de titres. Et puis il y a des arrêtés d'expulsion, effectivement, qui sont mis en œuvre. On a plus d'un millier de personnes qui ont été expulsées l'année dernière du seul fait des troubles à l'ordre public.
Sur combien qui devaient l'être? Il y en a 1000 qui ont été expulsés. Il y en a combien que vous auriez voulu expulser dans l'absolu?
Non, mais si la question c'est est-ce qu'on expulse tous les auteurs de troubles à l'ordre public, c'est très important.
Non, voilà. Ma question c'est la proportion par rapport à ce que vous souhaiteriez faire. Quand vous dites que les OQTF, par exemple, de nationalité algérienne ne peuvent pas partir.
On prend un arrêté d'expulsion. Le Danemark a les mêmes problèmes que nous, hein. Il faut qu'ils obtiennent des laissez-passer. Il faut que donc.
Bien sûr.
On a pris des arrêtés d'expulsion qu'on ne pouvait pas prendre avant grâce à la loi 2024 qui a abaissé le seuil de tolérance, entre guillemets, des troubles à l'ordre public. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et on expulse effectivement des personnes. On a eu 25 000 personnes qui sont reparties.
25 000 personnes
qui sont. Non, je dis pas que les choses vont mieux. Je dis que on est parmi les pays d'Europe qui expulsons, reconduisons le plus, à égalité avec l'Allemagne. On se fait une course avec l'Allemagne, mais on est au top niveau.
Laurent Nunez.
Et donc, ce que je vous dis, c'est attention, quand vous parlez des mesures, le Danemark a les mêmes difficultés que nous. Il faut obtenir des laissez-passer, il faut reconduire des personnes. Mais nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'expulser les personnes qui causent des troubles à l'ordre public.
Jean-Luc Mélenchon a réagi au fait que la France insoumise soit désormais classée à l'extrême gauche. Nunez innove et trouble l'ordre public électoral. Il vous accuse personnellement en changeant les étiquettes des partis politiques. Alors qu'en 2020 et 2023, LFI était classé à gauche, le ministre décide à la Trump de nous classer à l'extrême gauche. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est faux. Enfin, d'abord, il parle d'étiquettes. D'abord, je vais peut-être expliquer les choses. C'est la circulaire sur le nuançage qu'adresse le ministre de l'Intérieur à tous les préfets. Le nuançage, c'est une façon de rendre les résultats électoraux plus lisibles.
Chaque élection.
Plus lisibles pour nos concitoyens, pour les médias. Et à chaque élection, on réexamine ce nuançage. Il évolue en permanence. Et on tient compte. Alors d'abord, ça concerne pas les étiquettes, hein. L'étiquette LFI, elle reste, les candidats peuvent se revendiquer, heureusement, librement de l'étiquette LFI. Il peut y avoir des listes LFI. Il y a trois types de nuances. Vous savez, le nuançage individuel. Pour les personnes qui appartiennent à une liste, vous avez le nuançage de liste, ça on change pas, hein. Vous avez toujours
et
la
vous
nuance.
Vous avez la question du parti. Il dit de vous que vous décidez à la Trump.
Non, mais attendez, je termine. Vous avez le nuançage individuel. Vous avez le nuançage de liste. Il y a toujours dans le nuançage. Regardez la circulaire. Il y a toujours la LFI. Ce qui change, c'est qu'on regroupe les résultats en 6 blocs. Il y a 6 blocs. Vous avez un bloc extrême gauche, un bloc de gauche, un bloc divers, un bloc centre, un bloc de droite, un bloc extrême droite.
OK.
Il y a 6 blocs. Et on a fait passer la France insoumise du bloc de gauche au bloc extrême gauche. À partir d'une analyse qui a été faite, qui repose, on travaille comme
ça. Mais ça, il le sait, Jean-Luc Mélenchon. Il dit pourtant que vous décidez à la Trump et que vous avez décidé de troubler l'ordre public électoral.
Non, je décide pas à la Trump. On prend un faisceau d'indices. Et parmi ce faisceau d'indices, on a reconnu 3 éléments. Depuis l'été dernier, personne ne peut nier que la France Insoumise.
Mais il met en doute même la qualité des élections, puisqu'il dit peut-on encore avoir confiance dans les élections si quelqu'un truque les étiquettes politiques.
On truque pas les étiquettes politiques. C'est une question de recensement des résultats. On a encore une fois, je vous redis les 3 critères qui ont fait que on a classé la France Insoumise à l'extrême gauche. Et j'assume totalement ce choix. Le premier, c'est qu'il y a quand même depuis l'été dernier chez la France Insoumise une remise en cause très forte de l'autorité judiciaire, de l'autorité parfois des médias qui sont accusés de parti pris. Et puis, il y a ces accusations systématiques de la police tue, etc. Vous voyez bien que depuis l'été dernier, il y a une évolution vers une forme de radicalité, parfois des appels à la désobéissance civile. Bon. Le deuxième point qu'on a pris en compte, c'est quand même, il y a quand même peut-être une forme de désalliance aussi au sein du bloc de gauche avec la France insoumise qui appelle à sanctionner notamment le Parti socialiste qui envoie des qui monte des listes contre la gauche traditionnelle. Et puis troisième argument qu'on a pris en compte, pardon, mais on peut considérer que la France insoumise s'éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines, en donnant la primauté aux aspects communautaires de l'organisation de la société, aux aspects identitaires. Et donc c'est à ce titre-là qu'on l'a classé à l'extrême gauche.
Et que vous assumez. Merci Laurent Nunez d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, était mon invité ce matin. Laurent Wauquiez, vous voulez dire un mot ?
Oui, bonjour Madame Malherbe. Bonjour, oui, je suis en face de vous, oui. Oui, je sais que vous kiffez quand on attaque cette rubrique un lundi matin avec Laurent Wauquiez. Je sais que je te plais, Apolline. Moi, le Georges Clounet du Puy-en-Velay. Bref, bravo à Laurent Nunez. Franchement, c'est beau comme il a géré. Il a réussi en quelques mois la lourde tâche de redresser le ministère de l'Intérieur. Un ministère de l'Intérieur laissé dans un état déplorable, il faut rappeler, après le passage lamentable d'un homme qui était plus intéressé par ses ambitions présidentielles que par la sécurité de nos concitoyens.
Vous parlez évidemment de Bruno Retailleau.
Voyez, je n'ai même pas cité son nom, vous savez tout de suite de qui je parle. Tellement il a marqué les esprits en plongeant le pays dans le chaos. Alors, cher Laurent Nunez, si vous avez des conseils à me donner pour réussir à succéder à Retailleau à la tête des Républicains quand il va se planter dans peu de temps, eh bien, je suis preneur.
Merci beaucoup, Laurent Wauquiez.
De rien, mon poussin.
Oui, mais... Bon, bref, Laurent Nunez, quel est votre avis personnel sur les trois sujets qui nous intéressent ? L'aide médicale d'État, l'immigration, la violence des jeunes ?
Écoutez, Madame de Malherbe, moi je suis avant tout là, vous le savez, pour rassurer, pour minimiser le plus possible les éléments que vous me donnez. Vous parliez de meurtre tout à l'heure, je préfère parler d'aide à la fin de vie.
Oui.
Vous me parliez de drogue, je préfère parler d'aide médicale citoyenne. Vous savez, j'ai un secret pour ne jamais répondre aux questions, c'est de répondre en termes d'effectifs de policiers et de gendarmes. Ça marche à tous les coups. Vous posez une question sur une manifestation, écoutez, on a mis en place tous les effectifs pour éviter les débordements. Vous posez une question sur un événement sportif, écoutez, nous avons mis en place tous les effectifs pour sécuriser les abords du stade. Je peux répondre à n'importe quelle question. même n'est plus incongru. Est-ce que je suis une femme ? Écoutez, nous avons mis tous les effectifs de police scientifique qui sont mobilisés sur le sujet pour répondre à cette question.
Vous n'avez pas posé la question, mais maintenant que vous le dites. Merci Laurent
Nunez. Vous m'avez envoyé beaucoup de mauvaises nouvelles sur lesquelles je dois répondre. De toute façon, pour faire ça, Madame de Malherbe, sachez une chose, sur le terrain, je suis d'accord avec vous, les résultats ne sont pas au niveau. Mais ce qui est rassurant, c'est que tous mes chiffres sont bons.
Merci Laurent Nunez. Allez, sans attendre, on retrouve Pascal Pro pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à l'élégant Thibaut Texer, Arnaud Demanche et tous les sous-fifres qui sont au fond de ce studio. Laurent Nunez, un homme grand, fort et beau, c'est sur lui que nous comptons pour nous protéger des hordes de migrants sanguinaires qui débarquent chaque jour un peu plus nombreux dans notre pays. Mais si, ne faites pas ces grands yeux Apolline, si, excusez-moi, regardez ces news et vous verrez, c'est dans tous les journaux en tout cas de notre chaîne. Allez, municipal, nous en parlions. Le ministère de l'Intérieur et Laurent Nunez ont classé les candidats municipaux de la France insoumise dans l'extrême gauche. Eh bien écoutez, merci, je dis merci, il était temps. Les insoumis rejoignent ainsi tous les autres partis d'extrême gauche, le PC, les Verts, Place Publique, le PS Lyotte, le Modem, Renaissance, les Républicains. Voilà. Mais oui, mais c'est quand même plus clair pour nos électeurs, voilà. Et puis football, je vois la triste mine de Thibaut Texer. Large victoire du PSG 5-0 face à l'OM. On retrouve tout de suite la réaction de l'entraîneur parisien, Luis Enrique.
Et... 5-0. Et c'est bien. On a marqué les buts. Et on a juste seulement corrigé le Marseillais. Alors qu'on aurait pu encore faire mieux et les humilier. Et on est premier. On est premier au classement. C'est bien. Mais moi, j'attends que mes joueurs et qu'ils font encore mieux. Que j'attends qu'il fasse mieux que premier. C'est comme ici dans le studio, ça rigole. Mais il attend que c'est pas la folie, pas le délire. Il va faire la folie.
Merci, monsieur Henriquet. Embourbé dans l'affaire Epstein, Jacques Lang a proposé sa démission à la présidence de l'Institut du Monde Arabe. Philippe de Villiers, bonjour. Vous êtes choqué par Jacques Lang?
Évidemment. Ce qui est choquant, mais c'est ma herbe, c'est pas tant cette histoire de annexe de pédocriminalité. AC News, nous sommes ouverts d'esprit sur le sujet. Et puis il y a la notion du pardon. Est-ce pratique le pardon? Ce qui est fou, c'est l'existence sur le territoire d'un institut du monde arabe. Et en plus, avec à sa tête un socialiste. On est en plein islamo-gauchisme.
Selon vous, qui devrait prendre la présidence de l'Institut du monde arabe?
Qui? On s'en fout, c'est personne. L'urgence, elle n'est pas là, elle n'est pas de nommer quelqu'un, c'est de démanteler de toute urgence ce repère de terroristes. Hein, faut arrêter avec ces orgies lubriques d'ayatollah dans des jacuzzis de pétrole. Hein, franchement, l'Institut du monde arabe, et pourquoi pas bientôt à Paris une grande mosquée, tant qu'on y est.
Ça existe déjà, la grande mosquée de Paris.
Quoi? Alors c'est quoi la suite? Les tours de Notre-Dame transformées en minarets, c'est ça, hein? Le Sacré-Cœur en hammam et l'Élysée en grand palais du grand vizir, hein? C'est ça.
Merci beaucoup, monsieur de Villiers. Ségolène Royal, et vous en pensez quoi, oui, de cette affaire?
Oui. Bah, écoutez, sur le molikoum, hein, Pauline de Manarpanerbe. Ça va, moi, sœur Abdoulot? Oui. Bah, déjà, je pense que présidente de l'Institut du Monde Arabe, c'est c'est un poste taillé pour moi, ça. Je suis celle qui connaît le mieux le monde arabe, puisque je suis né à Dakar. Hein, c'est vous dire si je suis connu en géopolitique. Hein. Puis depuis deux semaines, notez que je suis présidente de l'association France-Algérie.
Oui, on a vu, oui.
Hein, alors j'espère que ce sera moi, Inch'Allah. Hein. Mais si. D'ailleurs, je remercie par avance le président Macron. Hein, pour ma nomination à venir, choukran, Sidi Macron. Vous voyez donc, je maîtrise parfaitement aussi la danse du vent.
Je vois. Le ministre des Affaires étrangères a fait savoir qu'il prendrait le temps nécessaire pour trouver la personne idéale. J'imagine qu'il vérifiera le passé, le passif même de chaque candidat.
Vérifier le passé, le passif? Oui, mais ça m'arrange pas du tout, ça.
Ah oui,
parce que s'il fouille un peu, il va vite voir que moi aussi, dans le temps, j'ai eu des relations très proches avec un homme qui préférait les femmes plus jeunes. Mais je ne le savais pas, il faisait ça dans mon dos. Puis c'était pas au niveau d'Epstein, c'était pas en jet privé, c'était en scooter. Mais tout le monde sait que dès que j'ai découvert le poteau rose, j'ai mis tout de suite fin à cette relation.
Ah, oui.
J'ai coupé les ponts, je suis clean.
Vous êtes blanc comme quoi?
Oui, comme Jack Lang, enfin presque.
Quel est le programme, Alain?
Eh bien, avec les grandes gueules, entre 9h et midi, nous accueillons Karine Le Marchand. Elle vient présenter son documentaire sur l'immigration. C'est ce soir sur M6 et elle va débattre avec Bruno Poncet, Joël Dagosséry et avec Jean-Loup Bonamy. À tout de suite avec les GG.